Eh bien, bonsoir. Joie de vous retrouver pour continuer à méditer ensemble sur la Bible, spécialement le Nouveau Testament maintenant. La dernière fois, on a commencé à entrer dans le Nouveau Testament et on a regardé les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est un peu comme la chaîne de l'Himalaya. Hein. Là, on est vraiment au sommet de toute la Bible. Et vous savez que dans l'Himalaya, il y a un sommet aussi, l'Everest. Et puis, ben voilà, ça, je pense, c'est l'évangile de Jean. Hein. On a les quatre évangiles sont l'Himalaya, et dans l'Himalaya, il y a encore un mont qui semble particulièrement étonnant, différent des synoptiques, Saint Jean, dont on a médité le prologue la dernière fois. Avec les évangiles, on est entré dans la bonne nouvelle. On ne peut pas dire que l'Ancien Testament soit déjà la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas encore la bonne nouvelle, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est l'annonce d'une bonne nouvelle à venir, l'Ancien Testament. On nous parle de victoire, mais on voit beaucoup de défaites. On nous parle de... Tiens, il y a un petit problème. On nous parle de recherche de la vérité, mais on n'a pas encore vraiment les réponses. On nous parle de... On nous fait des promesses, mais on ne voit pas encore l'aboutissement des promesses. On a les prophètes, les livres historiques, les livres de sagesse, mais c'est encore un peu incoatif. On reste un peu sur notre faim. C'est encore un peu embryonnaire. Et puis tout d'un coup, on ouvre le Nouveau Testament, et puis voilà, Jésus-Christ, qui dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pourquoi c'est à partir de là qu'on a vraiment la bonne nouvelle et que l'Ancien Testament n'est pas encore la bonne nouvelle? C'est parce que l'essence de la bonne nouvelle... c'est l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Et ça ne peut pas se faire, évidemment, avant Jésus-Christ. C'est l'alliance de Dieu et de l'homme qui se réalise en Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ n'était pas venu, nous étions sous les conséquences du péché originel, qui est la séparation de l'homme avec Dieu. Et du coup, la séparation des hommes entre eux, la séparation de l'âme et du corps, toutes les séparations, les divisions occasionnées par le péché originel, à commencer par la division principielle, la division de l'homme avec Dieu. Il fallait que Jésus devienne homme, que Dieu devienne homme en Jésus-Christ, pour que l'union entre l'homme et Dieu soit réalisée en Jésus. Alors, on peut décliner cela de trois manières. Historiquement, il y a eu ce qu'on appelle l'union hypostatique, donc l'union de Dieu et de l'homme en Jésus-Christ. C'est ce dont nous parlent les quatre évangiles. Maintenant, cette union, elle est toujours, cette alliance, elle est actuelle dans la grâce. Si nous avons la grâce, nous sommes en communion avec Dieu. Il n'y a plus de séparation entre lui et nous. Celui qui a la grâce participe de la vie divine. Saint Pierre le dit, hein, il nous a rendus participants de la nature divine. Donc ça veut dire qu'on est même divinisé. Ça ne se voit pas toujours le matin quand vous levez, il faut y croire. Mais en tout cas, dans la foi, oui, oui, je suis divinisé. Vous pouvez sourire comme ça le soir, je suis divinisé. Et puis, il y a aussi l'attente. Cette alliance, elle va se réaliser pleinement dans la gloire. Donc on a, si vous voulez, comme trois moments de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle déjà acquise en Jésus-Christ. Bonne nouvelle aujourd'hui acquise dans la grâce. Bonne nouvelle qui m'attend dans la gloire. Et si vous regardez ça, vous avez aussi la structure de tout le Nouveau Testament. Bonne nouvelle déjà acquise dans le passé, les quatre évangiles. Bonne nouvelle, aujourd'hui dans la grâce, eh bien, c'est des actes des apôtres à l'Apocalypse. Bonne nouvelle qui nous attend dans la gloire, c'est ce dont nous parle l'Apocalypse. Donc on a comme ça la structure, si vous voulez, les quatre évangiles, les lettres, en incluant les actes des apôtres, et puis l'Apocalypse, qu'on regardera la prochaine fois. Les évangiles nous disent ce qui s'est passé historiquement. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, et ses disciples en témoignent. Ils ont touché le Verbe de vie. Ils ont touché le Verbe de Dieu. Ensuite, Jésus est monté au ciel. Et désormais, nous sommes unis à lui, mais par la grâce. Il n'est plus visible en face de nous. Il a été en face de ses disciples. Maintenant, il est au milieu de son Église de façon invisible. Et il est dans notre cœur de façon invisible. Et c'est cela dont nous parlent les actes des apôtres, les lettres de saint Paul, les lettres catholiques. Et puis ensuite, vous avez finalement avec Jésus dans la gloire, dans l'Apocalypse. C'est le seul livre qui nous parle de Jésus une fois au ciel. On voit un jour Étienne dans les Actes des Apôtres, il voit le Fils de l'homme et il est lapidé. Nul ne peut voir Dieu sans mourir, disait l'Écriture. Ben, lui, il l'a incarné dans sa personne. Il voit Jésus dans la gloire et il est lapidé. Mais nous, on ne le voit pas encore dans la gloire. On sait que Étienne a eu cette vision. C'est dans l'Apocalypse qu'on voit vraiment le Fils de l'homme venir sur les nuées. Il est Jésus glorieux dans l'Apocalypse. C'est pour ça que c'est un livre tout à fait unique. C'est pour ça qu'on le regardera entièrement la prochaine fois. Alors, trois aspects: le mystère du Christ historique, le mystère de la grâce, le mystère de la gloire. C'est très bien résumé par une phrase de saint Paul qui me semble vraiment dire toute la structure du Nouveau Testament en une phrase, Colossiens 1, 27, le Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alors retenez bien cette phrase, le Christ dont nous parlent les évangiles, il est maintenant en nous, mais encore en espérance. Il est l'espérance de la gloire. Donc là, vous avez le Christ, les évangiles en nous, toutes les lettres, l'espérance de la gloire, l'Apocalypse. Alors, on a déjà vu les évangiles, on regardera la prochaine fois l'Apocalypse. Donc ce soir, on va se concentrer sur le Christ en nous. Donc sur les actes des apôtres et sur les lettres. Alors c'est dense, puisqu'on va avoir 22 livres à regarder. Donc le Nouveau Testament contient 27 livres. On a vu les quatre évangiles, donc ça fait déjà plus que pas beaucoup. Et puis on a l'Apocalypse à la fin, donc ça doit faire 22 pour ce soir. Vous avez en fait le livre des Actes des Apôtres. Vous avez ensuite les 13 lettres de saint Paul, ça nous fait 14. Vous avez ensuite l'Épître aux Hébreux, 15. Et puis vous avez les 7 Épîtres catholiques, 22. Alors regardons les Actes des Apôtres. C'est un livre important. Sans les Actes des Apôtres, il manquerait vraiment quelque chose. Ce serait un peu comme un sourire avec une dent en moins. Oui. Il manquerait vraiment, il y a un truc qui ne marche pas. Au terme des évangiles, vous avez quelques disciples de Jésus qui sont en train de le voir disparaître sous leurs yeux. On appelle ça l'ascension. C'est en train de le voir, puis tout d'un coup, il part, il disparaît, il est béni, puis il s'en va. Puis là, il ne le voit plus. Et puis, vous avez donc ça se termine avec Jean, le quatrième évangile. Puis tout d'un coup, dans vos Bibles, vous avez l'épître de saint Paul aux Romains. C'est qui ce type? D'où il sort? Vous voyez, si vous n'aviez pas les actes des apôtres, vous ne comprendriez pas pourquoi tout d'un coup il y a une épître de saint Paul. Mais c'est qui? Il ne fait pas partie des 12 apôtres. Il ne fait même pas partie des 70 ou 72 disciples. On ne sait pas. Donc heureusement qu'on a les actes des apôtres pour savoir qu'il y a eu la Pentecôte, pour savoir qu'il y a eu saint Paul. Il y a plein de choses qu'on va apprendre dans les Actes des Apôtres, et si on n'avait pas ce livre charnière, on serait totalement perdu avec la suite du Nouveau Testament. Donc c'est un livre très important, c'est un livre historique sur les premiers moments de l'Église. L'auteur, c'est qui? C'est saint Luc. Intéressant de savoir que l'auteur des Actes des Apôtres, c'est le cher médecin, comme l'appelle saint Paul, c'est saint Luc. On a comme donc deux ouvrages de saint Luc dans le Nouveau Testament. On pourrait dire on a Luc volume 1, l'Évangile, Luc volume 2, les Actes des Apôtres. Ou si vous préférez les séries sur Netflix, vous avez saison 1, saison 2. Saison 1, c'est tout ce que Jésus a commencé de faire. Saison 2, tout ce qu'il a continué de faire dans son Église. Alors le titre est très mauvais. Enfin bon, qui suis-je pour juger, mais Actes des Apôtres, bon, toute la tradition l'appelle comme ça, je suis désolé de dire ça, mais en tout cas, moi, je ne comprends pas bien le titre, parce que Actes des Apôtres, en fait, vous avez comme acte, il n'y a que deux apôtres dont on nous parle dans cet évangile, Pierre et Paul. Et encore Paul, vous voyez, apôtre. C'est bizarre, Actes des Apôtres. En fait, non, il faudrait. Pareil, qui suis-je pour inventer des titres, mais si j'avais à donner un titre, ce que je ne ferais pas, moi, misérable vermisseau, donc si j'avais à donner un titre à ce livre, ça serait Acte de l'Esprit-Saint. L'auteur principal qui va agir dans ce livre, c'est l'Esprit-Saint, c'est la Pentecôte, Et ça revient constamment. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Nous voulions aller en Bithynie, mais l'Esprit Saint nous en empêcha. L'Esprit Saint dit à Philippe, va sur la route de Gaza en plein désert, et là il rencontre l'eunuque, et tout d'un coup il le baptise. En fait, c'est des gens qui sont complètement sous le souffle de l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres. Et c'est l'Esprit de Jésus, donc c'est Jésus qui continue son action à travers son Église. Donc on pourrait dire les actes de Jésus continués dans l'Église ou les actes de l'Esprit Saint dans l'Église, à travers les apôtres. Je vous lis juste le début. C'est donc toujours à Théophile, hein, comme l'Évangile. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement où il commença jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Alors cette phrase, moi, me semble tout à fait incroyable. Ils ont vécu la crucifixion. Jésus est ressuscité. Pendant 40 jours, il se manifeste à eux. Ensuite, il n'arrête pas d'essayer d'aller les rattraper. C'est la dernière question qu'il lui pose. Quelle sera la dernière question que les hommes poseront à Jésus? La dernière question de l'humanité à Jésus. Dernière question, ils ont tout vécu le mystère. C'est maintenant que tu vas chasser les Romains? C'est quand même décevant. Et moi, je comprends qu'ils soient partis. Vous voyez, à ce moment-là, bon, les gars, je me barre. Non, c'est la dernière question. Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés pour sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Donc cette force, ils l'ont reçue. C'est le jour de la Pentecôte. On est au chapitre 2 des Actes. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. C'est ça qui me semble très intéressant, c'est que c'est comme si la résurrection n'avait pas encore opéré la transformation. Il faut la Pentecôte. Jusqu'au bout, ils posent une question un peu nulle quand même à Jésus. On voit, ils ne sont pas complètement transformés. On va vivre Pâques. À Pâques, on dit Alléluia, Alléluia. Puis nous, on est crevés. On dit, ouais, il est ressuscité, moi je suis mort. Et puis on voit pendant tous les récits de la Passion, on voit que ce n'est pas brillant en fait. Christ est ressuscité, puis Pierre dit, eh, les amis, moi je retourne à la pêche. Oh, viens avec toi, on sent qu'ils s'ennuient, les gars. Ils savent pas quoi faire avec la résurrection. Il y a un petit moment de latence, là, après la résurrection, ils sont tous paumés, en fait. On fait quoi avec la gloire? Nous, on est habitué à la souffrance, ça on connaît bien. La gloire, on ne sait pas manier. Et il va falloir la Pentecôte pour que tout d'un coup, ils soient vraiment transformés. À ce moment-là, la Pentecôte, là, ils ne vont plus poser des questions trop nulles. Ils vont vraiment partir. Et puis là, ils parlent avec autorité. D'où l'importance pour nous, hein, de dire, mais il faut que je reçoive l'Esprit Saint, il faut que je vive davantage de l'Esprit Saint. Les actes des apôtres, vous voyez des gens transformés par l'Esprit, en fait. C'est ça qui est merveilleux dans ce livre. Et alors, il y a la conversion de Saint Paul, donc moment capital, qui est repris trois fois. Vous avez le chapitre 9 qui parle pour la première fois de la conversion de Saint Paul, ensuite chapitre 12, je crois, non, chapitre 22, et ensuite chapitre 26. Donc trois fois, c'est pour nous dire que c'est important. Et même Saint Paul, on le verra, en reparle à nouveau dans l'Épître aux Galates. Il mentionne l'épisode de sa conversion en reprenant les choses de façon plus spirituelle d'ailleurs. Je vais vous lire juste son discours devant Agrippa, à la fin, le roi Agrippa, hein, le petit-fils d'Hérode le Grand, le dernier roi juif de Judée. C'est en acte 26. Donc il essaye, il passe devant le tribunal, on l'accuse toujours de plein de choses, et là il essaye de se défendre, et il raconte son histoire tout simplement. Pour moi, j'ai pensé qu'il fallait combattre très activement le nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même emprisonné beaucoup de fidèles, en vertu des pouvoirs reçus des grands prêtres. et quand on les mettait à mort, j'avais apporté mon suffrage. Donc on ne dit pas qu'il a tué, mais on dit qu'il a porté son suffrage quand on mettait à mort des chrétiens. Souvent, je passais de synagogue en synagogue et je les forçais à blasphémer en leur faisant subir des sévices. Faut le faire quand même. Ça s'appelle la torture, hein. Donc Saint Paul, il n'a peut-être pas tué des gens, mais il a torturé des chrétiens. Au comble de ma fureur, et là le grec est très fort, hein, c'est des mots qu'on utiliserait pour un animal qui va dévorer une proie. Au comble de ma fureur, je l'ai persécuté jusque dans les villes hors de Judée. Donc vraiment, le type, c'est un monstre à ce moment-là. Je ne sais pas s'il était possédé, mais les termes qui sont employés sont les termes qu'on utiliserait pour un possédé. Donc en tout cas, c'était un bon instrument de Satan. C'est ainsi que j'allais à Damas, muni d'un pouvoir et d'une procuration des grands prêtres. En plein midi sur la route, au roi, j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que le soleil, qui m'enveloppa. Alors certains disent qu'il a été flashé sur la route de Damas. Moi et ceux qui m'accompagnaient. Donc tout le monde voit la lumière, tout est enveloppé par la lumière. Tous nous sommes tombés à terre. C'est le tableau que vous avez derrière. Sauf que vous avez remarqué que dans le texte, il n'y a pas de cheval, hein. On représente toujours Saint Paul tombant de son cheval. Ce n'est pas dit dans le texte, alors peut-être qu'il était à cheval. Mais peut-être pas. En tout cas, dans le texte, il n'est pas parlé de cheval. Là, c'est ce beau tableau de Le Caravage. Tous nous sommes tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen: Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter? Il est dur pour toi de résister à l'aiguillon. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. Elle n'apparaît qu'en Acte 26. Parce qu'on a l'impression que Saint Paul, ouais, c'est facile, de toute façon, c'est un monstre, et puis tout d'un coup, boum, ça a été facile la conversion pour lui. Ah non, ça n'a pas l'air d'être facile. Il t'est dur pour toi de regimber contre l'aiguillon. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, pour faire avancer un taureau, ou un bœuf plutôt, on avait un bâton. Au bout des bâtons, on mettait une pointe. Et quand le bœuf voulait pas avancer, on le piquait avec la pointe. C'est ça, regimber contre l'aiguillon. Et donc le bœuf se faisait mal. Il résistait, mais il se faisait mal en résistant. Il t'est dur pour toi de résister contre l'aiguillon. C'est-à-dire, en fait, Saint Paul a résisté à sa conversion. Il a tout à perdre, le gars. C'était l'étoile montante des Juifs, pharisien hyper zélé. Il avait maintenant des lettres de créance pour aller à Damas. Le type, il était en train de faire une carrière magnifique dans le milieu. Et au sommet de sa carrière, tout d'un coup, il doit laisser les armes. Ben, il a résisté, en fait. Il est dur pour toi de résister contre l'aiguillon. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il résiste ou il résiste déjà depuis longtemps? Est-ce qu'on se convertit d'un coup ou au fait, est-ce que le Seigneur progressivement commence à faire des failles en nous? Moi, je pense qu'il y a des failles. C'est-à-dire que on le voit, par exemple, au chapitre 7, on est en train de lapider Étienne et il tenait les vêtements de ceux qui lapidaient. Oui, sans doute pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur sport favori. Donc, ils tenaient leurs vêtements. On est en train de lapider Étienne et il entend Étienne dire: Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne reprend presque les mêmes paroles que Jésus sur la croix. Il n'avait pas préparé son speech à l'avance, hein. Simplement, quand on est chrétien, ben, on réduplique le Christ. Donc, Étienne, en fait, réduplique spontanément les paroles de la croix et meurt en pardonnant à ceux qui le lapident. Et Saint Paul était là. Donc, on peut imaginer qu'il y a un très beau tableau de Velázquez, je crois, où on voit pendant la lapidation d'Étienne, Étienne est en train de regarder le ciel, et puis si on regarde Saint Paul, il est tout triste. En fait, Saint Paul a commencé à être troublé certainement au moment de la lapidation d'Étienne. On peut dire qu'Étienne est mort pour Saint Paul presque, et qu'au ciel, ils se sont réconciliés. Il y a des très beaux textes des pères de l'Église sur ça, montrant la réconciliation d'Étienne et de Paul au ciel. Donc, en fait, le Seigneur a travaillé l'âme de Paul pour qu'il se convertisse. Et au moment où il est sur le chemin de Damas, il y a encore une résistance. Et le Seigneur lui dit: Il t'est dur de résister à l'aiguillon. Et moi, je dis: Mais qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur répondit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où tu m'as vu et des moments où je t'apparaîtrai encore, pour délivrer pour te délivrer de ton peuple et des non-juifs. Moi, je t'envoie vers eux pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. Alors après, vous savez, donc il est aveugle, et puis finalement, c'est ses compagnons qui le portent. Et là, Dieu va parler à un type qui est inconnu, qu'on voit que ici dans la Bible, c'est intéressant d'ailleurs, comme s'il avait été gardé pour ce moment-là. Pour moi, c'est un des hommes les plus importants de l'histoire, puisque c'est celui qui va baptiser saint Paul. Apparemment, c'est un anonyme, et puis tout d'un coup, en fait, cet anonyme, aux yeux de Dieu, ne l'était pas. Ananie va être celui qui baptise saint Paul. Dans une vision, le Seigneur dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude, tu demanderas à un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu une vision. » C'est magnifique. Il sait exactement ce qu'on fait, hein, le Seigneur. Il connaît le nom de la rue. Lève-toi, voyez, va rue droite chez Jude, donc il sait à qui appartient l'appartement. Tu demanderas à un homme de Tarse, il sait d'où est Paul, il s'appelle Saul, et puis il sait ce qu'il fait, il est en prière. Et il a eu une vision. Donc il connaît presque son numéro de téléphone, vous voyez, il connaît son 06, son 07. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains, ça c'était la vision qu'il avait, saint Paul. Ananie répondit, j'aime beaucoup aussi sa réponse, « Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme. Gloops. C'est pas dans le texte, gloops. Et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Et, by the way, il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres, le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Donc il n'a pas envie d'y aller, en fait, Ananie, vous voyez bien. Je te signale qu'en fait, il a dans sa poche un papier. Il va m'enchaîner à peine arrivé. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Ah, c'est très beau. C'est pas instrument en grec. Ici, traduisent instrument, c'est la traduction liturgique, c'est plus facile à comprendre, mais en grec, c'est vase, le premier sens. Cet homme est un vase d'élection. Ça, je trouve ça très beau pour comprendre la vocation de saint Paul, puisque là, c'est Jésus lui-même qui dit la vocation de saint Paul. Qui est saint Paul ? Ben, écoutons ce que Jésus en dit. Saint Paul, c'est un vase d'élection. C'est quoi un vase ? C'est un instrument, donc ça nous parle déjà de son auteur. Celui qu'on applaudit quand il y a un très beau vase, c'est l'auteur, c'est pas le vase. Donc, c'est pas saint Paul qu'on applaudit, c'est le Seigneur. Mais saint Paul va parler du Seigneur. Et puis, à quoi ça sert un vase ? Pourquoi c'est un vase plutôt qu'un autre instrument ici ? Parce que le vase sert à être rempli, déplacé et déversé. Et ça va être exactement la vocation de saint Paul. Il est rempli de la grâce de Dieu, il va être la peau des nations. Il va être porté aux nations pour déverser sur les nations tout ce qu'il aura reçu. Donc, c'est vraiment sa vocation. Il est vase d'élection. Alors, Ananie y va, vous connaissez la suite, il le baptise, hein, Saul, mon frère. Et puis, c'est très beau, là. Alors, le livre des Actes des Apôtres, c'est un des rares livres qui n'est pas fini. Ça se termine de façon un peu abrupte, comme ça. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu. Il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance, sans obstacle. L'histoire pourrait continuer. Et ça se termine un petit peu, sans jeu de mots, en queue de poisson. Et c'est normal parce qu'en fait, si c'est les actes de l'Esprit Saint dans son Église, ben ça continue. C'est un livre qui ne peut pas s'arrêter. Les Actes des Apôtres, c'est nous qui continuons de l'écrire. Ce soir, on continue d'écrire les Actes des Apôtres. On se parle ensemble de Jésus et de ce qu'il nous a dit. Donc, c'est le livre, si vous voulez, qui accompagne toute l'histoire de l'Église. Alors, passons maintenant à la deuxième sous-partie de cette deuxième partie du Nouveau Testament, constituée donc des 22 livres là, que nous étudions ce soir. On a regardé donc les Actes des Apôtres. Maintenant, entrons dans les lettres. D'abord, les lettres de saint Paul. Pardon. Alors, ce sont des lettres particulièrement importantes. puisque là, c'est saint Paul qui fait la théologie de la doctrine qu'il a comprise. Vous savez, il y a une théorie, Nietzsche par exemple disait que pour lui, le fondateur du christianisme, ce n'est pas Jésus, c'est saint Paul. Nietzsche, vous savez qu'il était athée, hein, celui qui dit qu'il est mort en 1900, donc c'est sympa pour commencer le XXe siècle. Merci beaucoup pour le verre d'eau. D'après l'Évangile, ça devrait vous être rendu plusieurs fois. Nietzsche, qui disait « Dieu est mort », c'est intéressant d'ailleurs parce que Nietzsche a passé les 10 dernières années de sa vie dans une crise de folie. Il n'a plus pu écrire, il pouvait juste jouer encore un peu de piano. Il jouait très bien. Il était à Gaga pendant les 10 dernières années de sa vie. Et il s'est écroulé dans une crise de folie à 500 mètres du Sphère de Turin. C'est à Turin qu'il a eu sa crise de folie, à 500 mètres du Saint-Sphère. Lui qui disait, qui s'appelait à ce moment-là l'Antichrist, qui signait ses lettres l'Antichrist contre le crucifié. Donc c'est impressionnant, hein, le cas Nietzsche est très impressionnant. Eh bien, il avait du mépris pour Jésus, mais pas de la haine. Celui qu'il ne peut pas supporter, c'est saint Paul. Et beaucoup haïssent saint Paul. Il y en a qui disent « j'aime bien Jésus », mais saint Paul, vraiment non. On devrait s'interroger pourquoi saint Paul nous agresse comme ça. Bon, déjà, il a un tempérament, effectivement, ça ne devait pas être un type très... oui, c'est pas le type le plus cool. Vous faites un baptême, qu'est-ce qu'on pourrait inviter? Ouais, il y a un type là sympa, Saul de Tarse, vous avez entendu parler, non? Donc a priori, vous ne l'invitez pas au baptême. Dans la liturgie, pourtant, on l'invite chaque jour, pratiquement. À chaque fois, la première lecture, que ce soit l'Ancien Testament, soit saint Paul. Hein. Donc on lit beaucoup saint Paul, il tient une très grande place, à tel point, pour reprendre ce que disait Nietzsche, que certains considèrent que c'est lui qui a fait le christianisme. Alors, ce n'est pas vrai, c'est évidemment Jésus la source. N'empêche, il en a donné une théologie. Et donc, c'est très dense, les épîtres de saint Paul. Et parfois, c'est difficile, on va le voir, mais ce que je trouve intéressant avec saint Paul, c'est que quelque part, nous sommes plus proches de lui que des disciples, que des apôtres. Parce que les apôtres, ils avaient Jésus en face d'eux. Saint Paul, il n'a jamais vu Jésus en chair et en os. Il n'a jamais été en face de lui, comme les apôtres ont été en face de Jésus. Lui, il est comme nous, il a vécu dans la foi. Alors, il a eu quelques visions, à la différence de nous, mais lui, il a vécu essentiellement dans la foi. Donc, quelque part, existentiellement parlant, il est plus proche de nous que les apôtres. Alors, ça, vous imaginez à quel point ça a dû être difficile pour les 12, pour Saint-Pierre notamment. Notamment, vous savez, dans les actes de l'apôtre, à un moment, Saint-Pierre va manger, quand les Juifs arrivent, il fait semblant de manger avec les Juifs. Alors, habituellement, il mange avec les païens. Puis tout d'un coup, il y en a qui arrivent de Jérusalem, et là, il ne mange plus avec les païens, il se met juste avec les Juifs. Et là, Saint-Paul le reprend publiquement, il lui dit « hypocrite ». Enfin, grosso modo, il lui dit « voilà ce que tu es en train de faire, ce n'est pas l'Évangile, ça ». Vous imaginez, mais ça aurait été quoi notre réaction, nous? On a vécu 3 ans avec Jésus. On a vu tous les miracles de Jésus, on a assisté à la galère, même on ne l'a pas assisté, on a fui pendant qu'il était crucifié. Mais Jean a été là quand même. On l'a vu ressusciter. Et là, tu as un inconnu qui est en train de nous expliquer l'Évangile. Et en train de reprendre le chef, notre patron, Pierre, il est en train de se faire bâcher par un type. Mais tu sors d'où, mon pote? Tu veux qu'on te rappelle ce que tu faisais il y a 2 ans, là encore? Tu es en train de torturer les chrétiens, maintenant tu nous fais la leçon, mais... C'est incroyable, c'est une comète, saint Paul. Comment les autres ont pu accepter que saint Paul vienne les corriger, leur expliquer des choses de l'Évangile qu'ils n'avaient pas développées à ce point? Et saint Pierre, là, il est magnanime parce que dans sa deuxième épître, il parle de saint Paul. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Saint Pierre parlant de saint Paul, c'est très intéressant. « Tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire, comme notre cher saint Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Là, il a dû être rempli de charité quand il a écrit ça. Hein. Notre cher saint Paul. Je ne sais pas si c'est avant qu'il se fasse bâcher par lui ou après. Il le fait d'ailleurs, alors ça c'est aussi très intéressant, Soyez attentifs donc à ce qu'il dit. Il le fait d'ailleurs dans toutes les lettres où il parle de ces questions. Il s'y rencontre des points obscurs que les gens sans instruction et sans fermeté détournent de leur sens. Alors c'est très intéressant, vous voyez, Saint-Pierre qui lit les épîtres de Saint-Paul et qui dit, ouais, il y a quand même des points obscurs. Enfin, lui, il est pêcheur en Galilée, vous voyez, Saint-Paul, lui, il a la meilleure culture juive de l'époque, il est de meilleure culture grecque, il est citoyen romain. On peut dire que Saint-Paul, c'est un condensé de toutes les qualités de l'époque, au point de vue culturel. Alors, c'est quoi le message de Saint-Paul, le message central, si vous voulez, une clé de lecture? Ben, pour moi, il faut toujours revenir à sa conversion. C'est l'archétype. C'est d'ailleurs la seule conversion qu'on fête dans l'Église pendant la liturgie de l'année. Il y a une fête de la conversion de Saint-Paul. Vous n'avez pas une fête de la conversion de Saint-Augustin. Pourtant, c'est un moment très important. Vous n'avez pas une fête de la conversion de François d'Assise. Pourtant, ça a été une sacrée conversion. On ne fait pas une fête de la conversion de Charles de Foucault. Pourtant, elle a été radicale. On fait une seule fois une fête de conversion dans l'année liturgique, c'est Saint Paul. Comme si elle était l'archétype de toute conversion. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'au moment où Saint Paul se convertit, il fait une découverte qui va décider toute sa théologie et qui va décider toute la théologie chrétienne. Jésus lui pose la question « Pourquoi me persécutes-tu » Et ça bouleverse Saint Paul. « Qui es-tu que je persécute ?» Et Jésus lui fait comprendre que quand il persécute les chrétiens, c'est lui qui persécute. Alors, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, donc il y a une unité entre les chrétiens et Jésus, ce qu'on appelle l'Église. Il va découvrir en fait le mystère de l'Église, que Jésus est présent à son Église et que quand on persécute les chrétiens, on persécute Jésus. Qu'il y a unité, de sorte que lui, il persécutait que les chrétiens, il n'a jamais persécuté Jésus, il est mort Jésus pour lui. Et tout d'un coup, il entend une voix lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et là, il fait le lien entre les chrétiens et Jésus. Donc ça, c'est vraiment le mystère de l'Église. Et vous pouvez, à partir de là, lire toutes les épîtres de saint Paul et vous allez voir qu'en fait, qu'il ne parle que de ça. Du lien entre nous et le Christ. Alors, dans ces épîtres, c'est bon à savoir aussi, il y a toujours deux parties. Une partie qu'on appelle doctrinale et puis une partie pratique, où on parle de parénétique. Donc une partie où il part plutôt dans la doctrine, puis après les applications de la doctrine. Un peu selon la phrase de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Des prises de conscience et ensuite des mises en pratique des prises de conscience. Ce qu'on appelle la responsabilité d'ailleurs. Être responsable, c'est avoir une prise de conscience et ensuite, en raison de cette prise de conscience, agir en conséquence. J'ai pris conscience que faire ça, c'est pas bien. Je le fais plus. Ce qu'on appelle la responsabilité. J'ai pris conscience qu'il avait besoin de moi, donc je prends soin de lui. Responsabilité. Donc la responsabilité, c'est toujours prise de conscience et mise en pratique. Donc au fond, Saint Paul, voilà, il veut des chrétiens responsables. Il écrit aux chrétiens en leur disant à chaque fois la doctrine et puis ce qui va s'en suivre au point de vue de la pratique. Alors, petit truc. Je fasse attention à l'heure quand même. Oulala. Petit truc pour connaître les épîtres de saint Paul, il y en a 13, alors il faut déjà vous chercher. Alors c'est où, Corinthiens, Galates, tout ça? Rococo, gaefeficol, testes, timtin, tifil. Donc si vous apprenez cette phrase, vous retrouvez rococo, gaefeficol, ro, romain, ga, galate, effe, donc ephésien, phi, col, colossien, etc. Vous faites une phrase comme ça. Et vous retrouvez comme ça, vous dites, elle est où, Éphésien? Vous savez que c'est la gros coco, gaéfé, ouais, vous l'avez. Alors, chronologiquement, il n'est pas sûr que les Romains soient la première, sans doute pas. La première, semble-t-il, c'est l'épître aux Thessaloniciens qu'il aurait écrit en premier. C'est un texte de 51 après Jésus-Christ, et c'est très intéressant, ça veut dire, alors, ça c'est même avant les évangiles. Donc, le premier texte du Nouveau Testament, en fait, c'est pas Matthieu, c'est pas Marc même, ça serait l'épître aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, la recherche historique en est là. On a tendance à dire que le tout premier texte, Thessalonicien. Le dernier texte de saint Paul, toujours intéressant de regarder l'alpha et l'oméga, hein, ce qui est premier, ce qui est dernier, ça serait la deuxième à Timothée. C'est très émouvant, là, c'est le vieux saint Paul qui dit à Timothée qu'il aime beaucoup, toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Allez, pas mal comme parole d'adieu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Alors, vu le temps qui nous reste, je vais être très rapide sur ensuite l'épître aux Hébreux et puis les épîtres catholiques. Alors, on les appelle catholiques parce que, non pas parce qu'elles ne sont pas protestantes ou orthodoxes, mais parce qu'elles sont, ça veut dire, universelles catholiques. Saint Paul, il écrit à Timothée, il écrit aux Colossiens, il écrit aux Philippiens. Là, vous avez Pierre, Jean, Jude, Jacques, c'est universel. Il n'y a pas une cible, un public cible particulier. C'est pour ça qu'on les appelle les épîtres catholiques. Universel, donc. L'épître aux Hébreux, on ne connaît pas son auteur. Avant, on disait c'est Saint Paul. Pendant très longtemps, on a dit que c'était Saint Paul. Et puis l'exégèse contemporaine semble dire que non, le grec est trop qualitativement différent des épîtres de Saint Paul. Ça ne doit pas être Saint Paul. Alors là, il y a plein d'hypothèses. Ouais. Mais souvent, on sent le style de Saint Paul, puis après, on se dit non, le grec est trop différent. Moi, je me suis toujours demandé si ça ne pouvait pas être Luc. Juste hypothèse qui n'engage que moi. Parce que Luc est grec et c'est l'ami de Saint Paul. Donc ça correspondrait bien, en fait, à. Il est inspiré par Saint Paul, mais en même temps, il a un grec qui est meilleur. Enfin bref, pure hypothèse. C'est très dense au point de vue théologique, l'épître aux Hébreux. C'est Jésus grand prêtre. C'est vraiment le sacerdoce du Christ. En fait, l'auteur de l'épître aux Hébreux veut montrer que le Christ est incomparable, absolument. Il est incomparable aux prophètes, il est incomparable aux anges, il est incomparable au plus grand héros de la Bible. Personne ne peut se comparer à Jésus. Donc, c'est le livre de la majesté de Jésus. C'est un très beau livre pour l'adoration. On veut montrer vraiment la grandeur de Jésus. Et en même temps, cette grandeur, elle ne fait pas peur. Au contraire, il est dit, avançons-nous avec assurance vers le trône de sa grâce. Donc, curieusement, vous avez ce paradoxe dans l'épître aux Hébreux. On magnifie la majesté divine et en même temps, on dit, aie confiance. Avec ce texte qui, pour moi, est typique des Hébreux, mais que j'aime beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. De sorte que nous pouvons dire avec hardiesse, le Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas, que peut me faire un homme? Hébreux 13, 5, 6. J'aime beaucoup ce texte parce que c'est dit très souvent dans la Bible, je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas. Mais ici, en grec, dans le texte grec, vous avez cinq négations. Donc on ne peut presque pas le rendre en français. Si on voulait le rendre en français, il faudrait dire un truc du style, ainsi parle le Seigneur, jamais, jamais je ne t'abandonnerai. Jamais, jamais, jamais je ne te laisserai. Oui, il faudrait traduire comme ça. Pour manifester que cinq fois de suite, il est dit non, 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 je ne te lâcherai pas. Donc c'est très beau ça. À la fois, il y a une majesté du Christ dans les Hébreux et en même temps, l'assurance que je peux lui faire vraiment confiance. Donc si vous voulez, crainte, une certaine crainte révérentielle et en même temps, une piété, une grande piété filiale, une très grande confiance. Je termine avec les épîtres catholiques. Alors, on ne peut pas les regarder toutes, malheureusement, mais citons au moins le prologue de la première épître de Saint Jean. On avait la dernière fois médité sur le prologue de Jean. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Depuis, vous l'avez appris par cœur, donc ce n'est pas la peine que je continue. Mais vous pouvez apprendre aussi celui-là. Ce qui était depuis le commencement. Vous voyez, on retrouve commencement en grec arché, hein, ça donnait archétype, architecte, archevêque. Tout ce qui est arché, c'est premier. Ce qui était depuis le arché, depuis le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Là, c'est vraiment le. Les Dominicains ont une devise, transmettre aux autres la vérité contemplée. C'est exactement ça, en fait, ici. C'est Jean a contemplé la vérité, maintenant il faut qu'il la transmette aux autres. Ouais, c'est le témoignage. J'ai vu, je témoigne. J'ai touché quelque chose, j'en parle aux autres. Pourquoi? Pour que notre joie soit complète. Pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui se réjouisse avec nous, que la fête commence. Vous retrouvez ici d'ailleurs quelque chose du Lévitique, c'est-à-dire que maintenant que nous avons le mystère, comment se comporter en face du mystère? Maintenant que nous avons l'arche, maintenant que le Christ est en nous, l'espérance de la gloire, comment on va se comporter? Toutes les lettres, c'est un peu ça. La partie pratique des lettres, c'est de dire, ben, si vraiment tu es une nouvelle créature, tu ne peux plus agir comme avant. Et c'est très intéressant parce que vous voyez que le christianisme n'est pas d'abord une morale, c'est une mystique. La morale te dit simplement comment tu dois agir. Là, c'est en fait, on te dit, tu es habité par une présence nouvelle, tu as la grâce. Effectivement, ensuite découle une éthique, une morale. Mais le christianisme n'est pas une morale. Le christianisme, c'est une mystique d'abord. C'est une communion avec Dieu. Et du fait de cette communion avec Dieu, certaines choses doivent changer. Oui. Mais la conversion, elle est d'abord un changement de manière de penser, un changement de présence dans notre âme. Ce n'est pas d'abord un changement moral. Le changement moral est second, même s'il est nécessaire. Alors, je termine avec Jude, qui nous déjà fait sentir un peu de l'Apocalypse. Jude, c'est un ouvrage très bizarre. Vous allez trouver des... Il parle de l'ascension d'Enoch, des choses qui n'apparaissent que chez Jude. Hein. Donc, c'est un livre qui a mis beaucoup de temps à être intégré dans le canon, parce qu'il semble lié à la culture païenne de l'époque. Enfin, on a des images, il semble lié au judaïsme ancien. Il est très étonnant. Et on voit déjà un peu d'apocalyptique, ça se termine, enfin, Jude 24, 25. À celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et plein d'allégresse en présence de sa gloire, au Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir, avant tous les siècles, maintenant et pour les siècles. Amen. Ça, c'est un style qu'on va retrouver dans l'Apocalypse. Gloire, majesté, souveraineté, pouvoir. Vous voyez, c'est une espèce de louange à la gloire de Dieu. Et ça se termine. Amen. Alors, la prochaine fois, pour terminer ce parcours biblique, on regardera l'Apocalypse. Ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera la fin du parcours. Bonne discussion à vous.